France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, explore le temps, l'affaire du collier de la reine. Le 15 août 1785, devant une cour médusée, Marie-Antoinette fait arrêter le cardinal de Rouen, qu'elle accuse d'escroquerie et de crime de lèse-majesté. Le scandale est né. L'escroquerie en question, une parure de 650 diamants. L'accusé, un libertin en charge de la plus haute fonction ecclésiastique. À ses côtés, une intrigante issue de la dernière branche des Valois, un mari cocu volontaire, un faussaire, une prostituée du palais royal et la reine Marie-Antoinette. Rapidement, le polar tourne à l'affaire d'État. Et en quelques mois, cette affaire ténébreuse enfonce un système à bout de souffle, affaibli par une crise financière et par la contestation de l'absolutisme. Jusqu'au verdict du 31 mai 1786 qui annonce la faillite imminente de la monarchie. Notre invitée aujourd'hui, Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles et de Trianon. Elle est l'autrice de plusieurs livres consacrés au XVIIIe siècle, dont celui-ci, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance, livre paru chez Perrin en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Versailles, été 1785. Ils sont tous là, et elle le sait. Tous l'attendent dans la galerie des glaces. Les courtisans, les vieilles familles qui la détestent autant qu'elle les méprise, sans parler des intrigants. Mais a-t-elle le choix, l'Autrichienne, Madame Vetto, Marie-Antoinette ? Nous sommes le 15 août, jour de la messe dédiée à la Sainte Vierge et, in extenso, à elle-même, la reine. Or, en ce jour céleste, la souveraine ne pense pas à célébrer la Vierge. Non, elle ne pense qu'à punir un homme, le cardinal de Rouen, et à l'humilier devant toute la France. Il ne s'y attend pas, tant mieux. La jubilation de la reine n'en sera que plus grande. Cela fait 11 ans qu'elle attend ce moment. 11 ans que sa mère, l'impératrice d'Autriche, l'a mise en garde. Attention ma fille, ce cardinal n'a de pieux que le nom. En vérité, c'est un libertin doublé d'un hypocrite. Pourtant, l'homme a vu le jour sous les meilleurs auspices. Descendant de l'une des plus illustres familles de France, les Rois, il est nommé, à seulement 25 ans, évêque de Strasbourg par le pape Benoît XIV, avant d'être élu à l'Académie française au fauteuil de la Bruyère. Mondain, il fréquente les salons de D'Alembert et de Buffon. Il connaît tout Paris et tout Vienne, où il est nommé ambassadeur en 1772. Et c'est dans la capitale autrichienne, justement, qu'il trébuche une première fois. Car sa façon de vivre n'est pas du tout du goût de Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette. Extrait du livre d'Evelyne Nevers, Marie-Antoinette, journal d'une reine.
18 avril 1772. Je suis triste de savoir que ma chère maman n'est guère satisfaite du nouvel ambassadeur de France à Vienne. C'est ce prince de Rouen, coadjuteur de l'évêque de Strasbourg, qui m'avait accueilli lors de mon arrivée dans cette ville il y a 2 ans. Il ne nous inspire aucune confiance. Il tient de mauvais propos, peu conformes à son état d'ecclésiastique et de ministre. Il connaît mal les affaires. Sa suite est composée de gens sans mérite et sans mœurs. Et ma mère le sait bien. Il est hostile à l'Alliance. Quelle guigne!
Car c'est peu dire que le style du cardinal fait jaser. Ses dépenses sont démesurées, son amour des femmes le compromet, sans compter le fait qu'il ne cesse de persifler contre les Habsbourg. 2 ans plus tard, il est donc renvoyé en France. Mais il ne se décourage pas. Il rêve de devenir ministre, à l'image de Richelieu. Comment ça, ministre ? Ce cardinal défroqué ? Marie-Antoinette s'y oppose farouchement. Mais a-t-elle tant d'influence que ça sur le choix des gouvernements ? Hein ? Pas vraiment. De fait, 3 ans plus tard, Rohan parvient à décrocher le titre de grand aumônier de France. Bien sûr, il jubile, et Marie-Antoinette enrage. Elle jure que plus jamais il ne l'approchera. Voilà pourquoi ce 15 août la rend si fébrile. Elle le sait et surtout elle le veut. L'heure de la disgrâce pour Rohan a enfin sonné, car elle a la preuve de ses méfaits. Face à elle, Louis XVI, le ministre des Affaires étrangères, Vergène, et le garde des Sceaux, Miroménil, qui la regardent. Une arrestation, vraiment ? Alors elle se met à pleurer et à tonner jusqu'à ce que son bon Louis s'incline, c'est une seconde nature chez lui, et qu'il convoque Rohan. Derrière les portes, la cour s'interroge. L'heure tourne, que se passe-t-il dans ce cabinet ? On agite son éventail, on caquette, on suppute, on imagine tout, sauf l'inimaginable. Car voilà que les portes s'ouvrent et que le baron de Breteuil interpelle un garde avec ces mots. « Je vous ordonne, de la part du roi, d'arrêter monsieur le cardinal. »
Je rêve où Louis vient de faire arrêter publiquement un cardinal.
Et pas n'importe lequel en plus. C'est un Rohan.
Soudain, les éventails cessent de battre. Les yeux s'écarquillent et le silence s'abat sur la galerie des glaces. Est-ce possible d'arrêter ainsi, un 15 août de surcroît, un homme qui par son statut ne doit répondre qu'au Saint-Père ? Car enfin, le cardinal de Rohan n'est pas n'importe qui. C'est l'homme d'église le plus important de France. C'est lui qui baptise les dauphins. Et en effet, le voilà qui apparaît, le visage blême, et qui se laisse mener à la Bastille dans un bruissement de soie. Quel scandale ! Le lendemain, Louis XVI écrit à son ministre des Affaires étrangères. « C'est la plus triste et la plus horrible affaire que j'ai encore vue. » Il se trompe, il n'a encore rien vu. Car déjà, l'arrestation enflamme Paris. Le cardinal en Bastille, les plus folles rumeurs s'avivent, lancées par les nobles que la reine a ostracisées et les mouchards sont partout. En tout cas, les Parisiens raffolent de ces raconteurs, comme l'explique l'historien américain Robert Lorton.
J'ai trouvé dans les archives beaucoup d'exemples de la lecture à haute voix, devant le café de Foy, dans le jardin du Palais Royal. Il y avait un orateur qui lisait un pamphlet du gouvernement. On était contre le gouvernement, donc le public, quelques centaines de personnes, protestent, fait des huées, sifflent, et finalement, on met le pamphlet sur une table. On nomme un procureur, un juge, un maître des hautes œuvres et on condamne le pamphlet pour délit de despotisme et le garçon de café le brûle.
De plus en plus, en effet, Paris bruit de ce qui vient de Versailles. Car enfin, faut-il que la monarchie soit à ce point tyrannique pour qu'elle en Bastille à tout va ? En réaction, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. D'autant que les libellés sont vendus sur feuilles volantes, à la pièce, et que le prix des gravures a fortement diminué. Y apparaissent des attaques ad hominem, accompagnées de terribles moqueries. Et puis il a toutes ces estampes qui caricaturent Marie-Antoinette en harpie. Avec ses ailes de rapace et son corps couvert d'écailles, disons-le tout net, elle est effrayante. Explication, avec l'historienne Chantal Thomas, en octobre 1993, dans l'émission « Les brûlures de l'histoire ».
Il y a des pamphlets étonnants où elle dialogue aux enfers avec Proserpine. C'est vraiment dans une vraie démesure, quelque chose entre, je pense aussi, entre le désir et la haine. Et cette part de désir, bien qu'inversée, est vraiment présente dans ces textes. C'est une littérature crapuleuse, mais qui touche aux passions et qui, à cause de ça, je pense, avait énormément d'écho. Même quand elle n'était pas lue, elle est touchée comme une rumeur.
En somme, en ces années 1780, l'esprit léger du début du siècle devient plus grave, plus corrosif. Voilà pourquoi, en cette fin d'été 1785, tous s'interrogent. Que reproche l'Autrichienne au grand cardinal, au juste ? C'est comme si, en sous-texte de cette question, les Parisiens étaient davantage de son côté à lui que de son côté à elle. Bon, on apprend qu'il aurait escroqué et qu'il aurait commis un crime de lèse-majesté. En cause, une étrange histoire de collier. Mais attention, pas n'importe quel collier. Il s'agit d'une pièce unique au monde. 650 diamants et 2800 carats tombant en rivière jusqu'à la taille. Une parure aussi extravagante qu'immétable. Sans doute destinée à être portée nue et allongée, elle a été commandée par Louis XV pour Jeanne du Barry, sa favorite. Or, Louis XV est mort avant de pouvoir la lui offrir. Et voilà que les joailliers Bemer et Bassange se retrouvent avec cette pièce sur les bras. À qui la revendre? Elle est si chère. Elle coûte 1 600 000 livres, soit l'équivalent de 3 vaisseaux de guerre ou de 3 châteaux en Île-de-France. Aucune couronne étrangère n'est prête à mettre un tel prix. À moins que Marie-Antoinette, la jeune femme est connue pour son goût du luxe. On murmure qu'elle multiplie des dettes abyssales entre ses jeux de cartes, ses perruques, ses robes de bal. On la surnomme Madame Déficit. Hélas, pour Bemer et Bassange, Marie-Antoinette refuse le collier, comme le confirme l'historien Camille Pascal dans l'émission La Grande Librairie en 2024.
La reine n'a jamais voulu de ce collier, parce qu'il est, en réalité, il est démodé, il avait été commandé pour la du Barry, c'est presque un sextoy, il a été commandé par Louis XV.
Calmons-nous quand même.
Mais non, elle dira, pardon, elle dira, mais c'est un harnais. Ça vous suffit. Bah. Donc, et c'est un harnais. Et c'est un harnais qui, en fait, de 650 diamants et de 2800 carats.
Trop lourd, trop cher, et surtout trop siglé du Barry, une femme qu'elle déteste. Et puis, en ces années 1780, c'est dans les arts décoratifs qu'elle préfère investir davantage que dans les bijoux, fût-il exceptionnel. Le collier reste donc dans son écrin. Jusqu'à ce que, le 15 août 1785, Marie-Antoinette accuse le cardinal de l'avoir acheté en son nom en vue de l'escroquer. Une accusation grave, à laquelle, à vrai dire, personne ne comprend rien. Quant à Rohan, il ne cesse de crier son innocence. Une enquête est donc ouverte. Mais qui pour la mener? Louis XVI a le choix. Il peut retenir la justice, c'est-à-dire juger seul, ou bien laisser les magistrats de Paris instruire l'affaire au Parlement. Fidèle à son caractère indécis, il laisse Rohan choisir. Exalté par le sentiment de son innocence, l'intéressé choisit d'être jugé par le Parlement. Lucide, le baron de Frénilly écrit « s'était jeté une mèche sur un baril de poudre ». Car le Parlement est en guerre contre la monarchie. Surtout depuis qu'en 1771, Louis XV a éloigné les 130 magistrats qui avaient osé contester son pouvoir. Louis XVI, pourtant, les a fait revenir. Il rêve d'une réconciliation, sans comprendre que ces magistrats sont des bourgeois qui le haïssent et qui comptent bien le faire savoir. Pour preuve, à deux pas de l'île de la Cité, où se trouve le Parlement, ils ont mis en place un jeu qui consiste à célébrer la statue d'Henri IV, le vert galant, façon de montrer que c'était mieux avant. Voilà pourquoi les magistrats se passionnent pour cette affaire de collier. Ils ont compris qu'elle s'avère éminemment politique.
Séché.
Vous écoutez Affaires Sensibles, explore le temps sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire du collier de la reine.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Cardinal de Rohan, nous venons vous arrêter. Vous êtes soupçonné de vol.
Je vous demande pardon.
Par ordre de Sa Majesté le Roi.
Affaires Sensibles.
On enferme le cardinal de Rohan à la Bastille le temps qu'il recouvre ses esprits. Non. Faites qu'on me relâche ! Je suis à Rohan ! Non ! Je vous en supplie ! Pas la Bastille ! Non !
Fabrice Drouel.
Automne 1785, Paris. Incarcéré à la Bastille, Rohan est mille fois interrogé. Et mille fois il le répète. Il est victime d'une machination. Les enquêteurs froncent les sourcils, mais ils l'écoutent. Et ils remontent le temps. Jusqu'à l'année 1781, lorsque la marquise de Boulainvilliers présente à Rohan une jeune noble désargentée dont l'ascendance est tout à fait singulière. Elle se nomme Jeanne de la Motte Valois. Oui, Valois, car la jeune femme l'assure, elle est descendante d'Henri II, le dernier de cette dynastie, celui qui s'est pris une lance dans l'œil lors d'un tournoi et qui en est mort 10 jours plus tard, Balot. En vérité, la branche de Madame de la Motte est bâtarde et les descendants peu scrupuleux. Alcoolique pour la plupart et totalement miséreux. Mais Jeanne n'est pas comme eux, oh non, elle a une haute conscience de son ascendance et de grandes ambitions. Elle aimerait, pour reprendre un vocable aujourd'hui à la mode, venger sa race. Et elle s'y emploie. À 22 ans, Jeanne a la tête bien faite et le corps aventureux. Et peu importe qu'elle soit déjà mariée, c'est un détail. Son époux, Nicolas de la Motte, est un fat. Issu de la petite noblesse champenoise, il ne lui offre que peu d'espoir. Tandis que ce cardinal de Rohan, lui, pourrait bien changer la donne. Il est si riche, si puissant. Mais comment comprendre qu'il se soit laissé séduire par une femme si indigente ? Explication avec l'historienne Evelyne Levert, ici, en 2004, au micro de Patrice Gélinet.
Madame de la Motte, il ne faut pas quand même oublier qu'elle est devenue sa maîtresse. Mmh. Et on ne pourrait pas comprendre l'histoire s'il n'y avait pas certainement une folie des sens qui se soit emparée du cardinal de Rohan. Parce qu'autrement, il ne peut pas avoir cru cette femme s'il n'y avait pas des liens intimes forts. Et le sexe, à mon avis, y est pour beaucoup dans cet attelage complètement affolant. Et le cardinal, il ne faut pas oublier que c'est aussi un homme, un libertin, un homme qui s'ennuie. Il faut toujours l'arracher à lui-même, à cet ennui dévorant.
Et oui, c'est un cardinal pas très catholique.
Hein, c'est un cardinal pas très catholique, mais vous savez, vous avez à ce moment-là toute une société qui se délite de cette façon-là et qui recherche à la fois dans le sexe et dans les choses extraordinaires des distractions.
Que de joie dans le lit de cette Jeanne de Valois, qui peu à peu fleure en Rohan le parfait pigeon. Elle l'a compris, l'homme n'est pas seulement riche, il est surtout rongé par la disgrâce. Lui vient alors l'idée de lui faire miroiter une sorte de retour en grâce, moyennant finance, car elle le jure, elle fréquente assidûment Versailles. Elle a même l'oreille de la reine. Elle est une Valois. Et elle le répète, Marie-Antoinette sera très sensible au fait qu'il participe à ses bonnes œuvres. 50 000 livres par ici, 100 000 livres par là. Que Jeanne empoche, en vérité, afin de s'offrir un appartement rue Saint-Gilles dans le Marais. Tandis que Rohan croit participer, lui, à des œuvres de charité. Mais comment se laisse-t-il berner ? Jeanne lui fait porter des lettres signées par la reine. En vérité, ce sont des faux, concoctés par un autre de ses amants, un certain Réto de la Villette, ou Réto de Villette. Or, l'homme est un faussaire sans culture. Il ignore que la reine ne signe jamais Marie-Antoinette de France. Elle ne signe que de son prénom, Marie-Antoinette. Mais Rohan est aveuglé par son désir. Il y voit du feu et continue de payer. Sauf que les mois passent, et que peu à peu, il s'inquiète. Pourquoi Marie-Antoinette ne l'a-t-elle jamais invitée ? Pourquoi refuse-t-elle de lui parler ? C'est à ce moment-là que Jeanne imagine la plus folle des scènes. Un rendez-vous secret avec une vraie fausse Marie-Antoinette. Bah, pourquoi pas, puisqu'il en rêve. Mais concrètement, comment faire ? Explication avec Evelyne Levert.
Madame de la Motte a été choisir une petite prostituée qui ressemble à la reine et qui va jouer le rôle de la reine.
Nicole Leguet,
dite baronne d'Oliva. Et le cardinal de Rohan va s'incliner devant cette prostituée, pensant que c'est la reine, qui lui remet une rose en lui disant que tout est oublié. Et à partir de ce moment-là, le cardinal s'imagine qu'il a bel et bien rencontré la reine et Madame de la Motte peut désormais lui demander tout et n'importe quoi au nom de la reine.
Reprenons. Jeanne et son mari seraient donc allés au palais royal choisir un sosie de Marie-Antoinette parmi des prostituées. Comment est-ce possible? Le juge d'instruction est médusé. Alors il diligente ses policiers au palais royal, qui en effet retrouve la prostituée. Il s'agit donc d'une certaine Nicole Leguet, surnommée baronne d'Oliva. Il l'envoie à la Bastille, où elle rejoint Rohan, Jeanne de Lamotte, son amant et son mari. Tout le monde à Londres. Circonstance aggravante, la jeune femme accepte de parler. D'après elle, Jeanne et son mari lui ont promis 15 000 livres en échange d'une scène digne d'une farce. Il s'agissait, dans la nuit du 11 août, de se grimer en Marie-Antoinette et d'approcher Rohan près du bosquet de Vénus dans les jardins de Versailles. Puis, de lui remettre une rose en prononçant ces mots. Vous savez ce que cela veut dire. Vous pouvez compter que le passé sera oublié. Un récit qui corrobore celui de Rohan.
À l'heure indiquée, vers 23 heures, je vis paraître une femme avec une coiffe noire, tenant un éventail à la main avec lequel elle relevait sa coiffe qui était baissée. Je crus à la clarté des étoiles reconnaître la reine. Je lui dis que j'étais heureux de trouver dans sa bonté une preuve qu'elle était revenue des préventions qu'elle avait eues contre moi. Elle me répondit quelques mots. Et comme j'allais m'expliquer, on vient lui dire que Madame la Comtesse de Provence et le Comte d'Artois étaient à deux pas. Elle me quitta brusquement et je ne la vis plus.
La stupeur générale. C'est-à-dire que non seulement le cardinal a trouvé crédible que Marie-Antoinette lui donne un rendez-vous en pleine nuit dans le dos du roi, mais il aurait confondu avec une fille de joie. Quel scandale! La figure royale est totalement désacralisée. Dans la foulée, voilà que la confession de la prostituée est publiée. Avec ses 20 000 exemplaires vendus en 4 jours, c'est peu de dire qu'elle fait un tabac. Le public la trouve si touchante, si candide face à la duplicité des puissants. Mais Rohan, lui aussi, est touchant, totalement dupé. Comprenez que si Marie-Antoinette avait bien tenu son rôle de reine depuis des années, rien de cela ne serait arrivé, car enfin, ne joue-t-elle pas les comédiennes dans son petit théâtre de Trianon? Et n'a-t-elle pas l'habitude de se promener la nuit sans le roi dans les bosquets? Ou incognito, en plein Paris, lorsqu'elle se rend en bal masqué, par exemple? Les Parisiens se gaussent, la reine se morfond.
2 novembre 1785. J'ai 30 ans aujourd'hui, et je suis bien malheureuse. Cette affaire m'entraîne dans un dédale d'horreur. Les outrages que m'inflige le cardinal sont encore pires que je ne le craignais. Il a cru que l'année dernière, par une nuit d'été, je lui avais fixé un rendez-vous secret dans le bosquet de Vénus pour lui accorder son pardon. Il suppose maintenant qu'il a été trompé et que quelqu'un a joué mon rôle. Mais comment un tel roman a-t-il pu se développer? Comment ce prince de l'Église a-t-il osé imaginer que je me serais prêtée, moi, archiduchesse d'Autriche, reine de France et mère du Dauphin, à cette intrigue indécente? Une attitude aussi indigne mérite un châtiment exemplaire.
Un châtiment exemplaire, à voir. Car à son tour, Reto de Villette accuse sa maîtresse. C'est elle, Jeanne, l'instigatrice, la manipulatrice. Rohan n'est que le dindon de la farce. Un dindon sous l'emprise de deux femmes.
La reine n'est-elle pas réputée pour ses dépenses démesurées?
Parler d'un mur de diamants dans la chambre de la reine.
Elle a dilapidé l'argent de l'État.
Tout le pays
et elle a fait des achats dans le dos de son mari.
Ce qui brille.
Extravagante, fourbe et adultère.
Elle achète des bijoux dans le dos du roi, vous savez.
C'est ainsi que le procès devient non seulement celui de Jeanne, mais aussi celui de Marie-Antoinette, que l'on perçoit comme intransigeante et légère, cassante et déconnectée. Preuve en est, l'acquisition de ce nouveau château à Saint-Cloud, d'une valeur de 6 millions de livres alors que l'État frise la banqueroute. Mais elle aime tant ce nouveau domaine qu'elle traverse en calèche. Parfois, elle pousse même jusqu'aux guinguettes qui fleurissent en bord de Seine. Elle y paraît souriante, son dos fin dans les bras. Louis XVI, pourtant, se méfie. Parmi les badauds se cachent peut-être des gens mal intentionnés. Et il n'a pas tort, la reine est en danger. Désormais, on murmure qu'elle se serait offerte à Rohan pour obtenir les diamants, ou pour les faire passer en Autriche. Ou pourquoi pas en Suède, tiens, chez son amant Axel de Fersen. Bref, les rumeurs les plus folles traversent les frontières, comme le raconte Robert Lorton dans son livre « L'humeur révolutionnaire ».
La presse étrangère francophone, en particulier la Gazette de l'Aide, qui disposait d'informateurs parmi les partisans de Rohan, couvrait l'affaire semaine après semaine. Les bulletins clandestins en firent leur sujet principal, enchaînant des anecdotes plus insolites les unes que les autres. Madame de la Motte aurait persuadé un joaillier parisien de concevoir un objet semblable à une tabatière, renfermant un portrait de la reine à moitié nue. Le bijoutier, horrifié par l'idée, avait fini par accepter après que la Motte l'eût assuré que la reine elle-même voulait que ce travail fût réalisé afin d'offrir l'objet à Rohan en témoignage de sa satisfaction. Au fur et à mesure que les Parisiens découvraient le déroulé des événements, l'affaire leur paraissait de plus en plus incompréhensible. Un labyrinthe inextricable, pour reprendre l'expression du courrier du Barin, et la ville était inondée de mille rumeurs confuses.
Mais parallèlement, l'enquête avance. Et les enquêteurs comprennent. Après la scène du bosquet, Jeanne prend connaissance de cette histoire de collier que les joailliers ne parviennent pas à écouler. N'y aurait-il pas un joli coup à monter avec ce dindon de cardinal ? C'est ainsi qu'en janvier 1785, Jeanne lui fait croire que c'est à lui que la reine a pensé pour satisfaire un caprice. Elle rêve du collier de la Dubarry, mais elle craint que Louis XVI ne lui refuse à cause de son prix. Rohan pourrait-il lui servir de prête-nom ? Elle le rembourserait, assurément. Alors, le 1er février 1785, Rohan paye la première traite au joaillier. 400 000 livres tout de même. Puis il se rend chez Jeanne, lui déposer le collier, afin qu'elle le remette à la reine. Or, à peine reparti, voilà que Jeanne, son mari et Réto de Villette, tous de mèche, se jettent sur le collier et le dessertissent grossièrement à l'aide de couteaux de cuisine. Une frénésie diabolique les gagne. Certains diamants s'abîment, tombent par terre, mais peu importe, il y en a tellement. Puis ils se les répartissent. Le mari en empoche le plus grand nombre et file à Londres pour les revendre. La suite, c'est Marie Bonne Olivry qui la raconte dans Paris Match.
Rohan est sûr d'avoir rendu le plus brillant des services à la reine. Mais les escrocs ont démonté les pierres en vitesse. Ils sont soudain très riches. Dans leur nouvelle propriété qu'ils acquièrent à Bar-sur-Aube, ils affichent le luxe des pires parvenus. Laquais, juments anglaises, vaisselle rare, tapisserie d'Aubusson, avec partout les armes des Valois. La noblesse du coin se précipite, l'ami de la reine reçoit si bien. Mais le 1er août approche et les geôliers attendent leur deuxième traite.
Ils attendent et ne voient rien venir. Alors, un brin contrit, les voilà qui se rendent chez la reine pour réclamer leur dû. Nous sommes le 24 juillet 1785, et c'est Madame Campan, la femme de chambre, qui prévient Marie-Antoinette, qui écrit dans le journal d'une reine, biographie imaginée par Evelyne Auvert.
26 juillet 1785. C'est donc vrai ce que racontait Madame Campan. L'histoire est même pire que je ne pouvais l'imaginer. Le cardinal a signé un contrat en mon nom avec Bohémère et son associé Bassange pour l'achat du collier. Et voilà que, d'après les billets prétendument signés de ma main, je devrais plus d'1 500 000 livres à ces messieurs. Je crois devenir folle. Mais plus je pense à cette affaire, moins je la comprends.
Non, elle n'y comprend rien, mais elle fait arrêter Rohan dans les circonstances que l'on sait. Et après l'enquête, vient donc le temps du procès. Il débute le 22 mai 1786 devant les 64 magistrats de la Grande Chambre du Parlement. Le cardinal de Rohan est là, entouré de sa famille, toutes vêtues de noir pour signifier que l'heure est grave. D'emblée, l'homme fait une excellente impression lorsqu'il déclare avoir été complètement aveuglé par le désir immense qu'il avait de regagner les bonnes grâces de la reine. Un narratif encouragé par son avocat, le très lettré Target, ardent défenseur des droits humains et de l'autonomie des parlements. Théâtral, il se tourne vers Jeanne et lui lance « Vous êtes un monstre d'ingratitude et d'imposture. » Bientôt, sa plaidoirie le rendra si célèbre qu'elle lui permettra d'être élu député du tiers-état. Mais nous n'en sommes pas là. Pas encore, même si on s'en approche. Car au-delà de cette escroquerie, c'est le système entier qui est questionné. En ligne de mire, sa noblesse déliquescente et son clergé affaissé. Car enfin, comment comprendre qu'un cardinal vive à ce point sous emprise et que la reine puisse être confondue avec une prostituée? Sans parler du profil de Jeanne, dont la simple ascendance lui fait croire qu'elle pourrait s'enrichir. Non, vraiment, quelque chose ne tourne pas rond dans le fonctionnement de ce monde. Peu à peu, les audiences se transforment en tribunes politiques, comme explique l'écrivaine Marie-Vonne Olivré.
À mesure que se déroule le procès devant le Parlement, on a beau découvrir les perfidies de Jeanne, écouter la prostituée témoigner, on a beau condamner le Valois au fouet, à la flétrissure et à la prison, c'est la reine, l'éternelle étrangère, l'autrichienne, qui se retrouve marquée au fer rouge de la honte. Pamphlets, libelles, plaidoyers des avocats s'arrachent, rien ne lui est épargné. On lui prête des mœurs lesbiennes avec Jeanne de Lamothe, on lui invente 1000 amants, 1000 bassesses. La reine, habituée à être obéie, croit encore que le jugement lavera son honneur, que le cardinal de Rouen sera admonesté pour l'excessif témérité dont il a fait preuve en ne considérant pas sa personne sacrée. Il n'en sera rien.
Non, il n'en sera rien, car au soir du 31 mai, le verdict est clair. Le Parlement acquitte le cardinal. Sa mise dans l'accusation du 15 août comme escroc et faussaire ne tient pas. Quel camouflet pour la monarchie! Un magistrat s'exclame. Que de fange sur la crosse et le sceptre! Quel triomphe pour les idées de liberté! Dans la foule, des cris jaillissent. Vive Rouen! Vive le Parlement! Indigné par le verdict, Louis XVI ordonne l'exil du cardinal en Auvergne dans son abbaye de la Chaise-Dieu. Toutefois, Rouen n'est pas le seul à être exilé. Reto de Villette est banni du royaume. Le mari de Jeanne, qui se cache en Grande-Bretagne, est condamné aux galères par contumace. Et Jeanne, le cerveau de l'escroquerie, est condamnée à être fouettée, marquée au fer d'un vet de voleuse et envoyée jusqu'à la fin de ses jours à la prison de la Salpêtrière. Mais est-ce imaginable pour une femme comme Jeanne de rester prisonnière? Un an plus tard, nul n'a jamais su grâce à quel complice. Voilà qu'elle s'évade et rejoint l'Angleterre, où, bénéficiant d'une popularité indéniable, elle raconte avoir été elle aussi victime de Marie-Antoinette et de ses amours saphiques, avant de mourir suicidée en se jetant par une fenêtre. Fin de l'étonnante Jeanne, présumée de Valois, et début du calvaire pour Marie-Antoinette, qui, en condamnant publiquement et injustement le cardinal, aura achevé de ruiner son image. Jusqu'à la Révolution, qui adviendra 3 ans plus tard, et pendant laquelle cette fois n'aura plus besoin de collier, faute de garder sa tête.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire du collier de la reine, notre invitée Hélène Delalex. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine au château de Versailles et de Trianon et autrice de plusieurs livres sur le XVIIIe siècle, dont celui-ci, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance. Dans l'affaire du collier de la reine, il y a d'abord Reine. Dans sa biographie, le grand Stefan Zweig, sa biographie de Marie-Antoinette, la qualifie de ni sainte du royalisme, ni prostituée de la Révolution, mais une femme somme toute ordinaire. Quel regard portez-vous sur Marie-Antoinette?
Oui, c'est tout à fait juste le titre original, An Average Woman, une femme moyenne. Marie-Antoinette, c'est le type même de l'anti-héros, en fait, finalement. C'est l'histoire qui s'abat sur elle, finalement, en quelques heures, et bien qui va révéler, effectivement, la grandeur de ce personnage. Elle va dire, d'ailleurs, dans une lettre pendant la Révolution française, lorsqu'elle est captive aux Tuileries, eh bien, on ne se connaît bien que dans le malheur. Donc, effectivement, c'est l'histoire, c'est le malheur qui s'abat sur elle et qui va révéler, eh bien, que c'est bien la digne fille de Marie-Thérèse, comme elle l'écrit.
Vous dites ce grand personnage?
Oui, absolument. Alors, Marie-Antoinette, eh bien, il y a presque un écran devant elle, cette profusion bibliographique de tous ordres. À la fois, évidemment, les essais dont vous avez parlé, les romans, le cinéma, évidemment, qui a fait d'elle une star internationale, les séries aujourd'hui. Mais finalement, et puis évidemment, toutes ces archives, finalement, comme les grands personnages de l'histoire de France, il y a des sources quasiment inépuisables sur Marie-Antoinette. Mais finalement... L'enjeu aussi pour l'historien, c'est de se rapprocher de la vérité, finalement, du personnage. Parce que finalement, Marie-Antoinette, c'est le personnage presque le plus célèbre de l'histoire, mais le plus caricaturé, vous l'avez dit. Et finalement, la caricature, est-ce que ce n'est pas une autre forme d'invisibilisation aussi pour les femmes? Et donc, évidemment, cette recherche permanente de l'historien, parmi, évidemment, tous ces écrans de caricature, eh bien, c'est de retrouver la vérité d'un personnage.
Cela dit, la modernité et la célébrité de Marie-Antoinette auraient-elles contribué à abîmer la fonction royale? Explique-nous en quoi cette célébrité qui naît au XVIIIe siècle diffère de la gloire et de la renommée.
C'est tout à fait juste. C'est l'historien Antoine Lilti qui a parfaitement étudié ce qu'on appelle cette culture de la célébrité qui naît, comme vous le dites, d'ailleurs le mot même célébrité naît à cette époque, à la fin du 8e siècle. En fait, il étudie toutes les formes de reconnaissance publique que l'on connaît encore aujourd'hui. D'abord, évidemment, la gloire qui est d'abord universelle et puis posthume. C'est la gloire des hauts faits héroïques, c'est celle de César, d'Alexandre le Grand. Et puis, il y a la renommée qui est plus locale, mais qui est du vivant d'un personnage, qui est parfaitement légitime. Mmh. Et puis s'ajoute, comme une strate, une dernière forme de reconnaissance, beaucoup plus éphémère, beaucoup plus fragile, qui est donc la célébrité. Et elle naît parce qu'il y a un facteur que vous avez très bien expliqué dans votre récit, sur, évidemment, cet essor massif de l'imprimé, texte et images, oui. Et puis aussi d'une presse qui n'a plus de garde-fous et qui revendique une pleine liberté de pensée, mais aussi de critique, et qui va se poser en presque rivale du pouvoir royal.
Vous qui connaissez bien le château de Versailles, quelle trace elle laisse à Versailles ?
La trace d'abord des lieux, en fait, et en naviguant dans Versailles, on voit en fait comme une sorte de portrait par les lieux de Marie-Antoinette, évidemment. Mmh. On lit dans sa passion, par exemple, pour le décor, son goût très sûr, une autre facette du personnage qui, justement, souvent était vue par le seul biais des dépenses et non pas du patrimoine.
Alors, vous parliez de la diffusion des idées, des informations à travers la presse. Il y a la rumeur aussi. Beaucoup de rumeurs autour de Marie-Antoinette. C'est Madame Rumeur, finalement.
Mais vous avez tout à fait raison. Vous savez, moi, je pense, là, quand je vous entends, à la fameuse tirade très célèbre de la calomnie de Beaumarchais, qui est dans le dernier acte du Barbier de Séville. D'ailleurs, le Barbier de Séville, il est en train de le jouer dans son petit théâtre dont vous avez parlé, quand l'affaire éclate. Eh bien, cette calomnie, cette rumeur...
Mais calomnie, il en restera toujours quelque chose.
Oui, c'est ça. Ou la calomnie, vous savez, c'est un bruit doux comme une hirondelle rasant le sol avant l'orage et puis tout d'un coup qui éclate devant vous. Effectivement, c'est le bras armé de la Révolution. D'ailleurs, à un moment, quand Madame Campan craint une tentative d'empoisonnement au plus fort du scandale, elle dit « Mais on n'est plus à l'affaire des poisons de Louis XIV. C'est la calomnie qui me fait périr. » Et ça, eh bien, il faut bien comprendre, parce qu'on a l'impression que tout part de Paris, en fait. Mais la calomnie, elle part de la cour. Vous savez que les flèches, elles sont beaucoup plus puissantes lorsqu'elles partent de très haut, de la cour. Mmh. Et que selon la bonne vieille règle, eh bien, vos meilleurs ennemis, c'est vos anciens ennemis, parce qu'ils savent très bien où frapper. Et donc, c'est cette vieille cour, qu'on appelle à l'époque, en parallèle avec la jeune cour, c'est-à-dire ces grandes familles aristocratiques, qui vont cristalliser des rancœurs, qui vont se transformer en haine. Ouais. Et toutes les pires rumeurs, par exemple, le surnom de l'Autrichienne qui va la suivre jusqu'à l'échafaud, c'est sa tante, Madame Adélaïde. Les rumeurs sur l'illégitimité des enfants royaux, c'est le frère du roi, le comte de Provence, qui jalouse le trône. Et donc finalement, ces rumeurs qui partent de la cour très bien, parce qu'évidemment on manie parfaitement le langage, eh bien vont trouver dans Paris une caisse de résonance extraordinaire.
Alors la rumeur, justement, et les effets de la rumeur, on va écouter ce qu'en pense en écho l'historienne Chantal Thomas, spécialiste comme vous du XVIIIe siècle.
Tout ce qu'on peut fantasmer d'horreur sur une femme lui est attribuée. L'imaginaire public se détourne du roi et projette sur Marie-Antoinette tout ce qui habituellement était le fait du roi. Donc ce qu'on va attribuer à Marie-Antoinette, c'est des débauches d'abord. C'est des dépenses et des dépenses de tout ordre. Des dépenses aussi bien vestimentaires, et ça c'est vrai, elle est vraiment la reine de la mode, c'est très mal vu, parce que traditionnellement une reine est invisible. La personne visible, c'est la favorite. La reine, elle est uniquement celle qui permet de continuer la lignée. C'est tout.
Pensez-vous que les libelles ont pu provoquer directement ou indirectement sa mort ?
Indirectement, oui.
Donc on est bien d'accord, attaquer Marie-Antoinette, c'est aussi, peut-être même surtout, attaquer une femme.
Absolument. La reine a fait l'objet de fantasmes de tous ordres, comme aucune autre souveraine avant elle. Chantal Thomas le dit très bien. Elle succède finalement à un cortège de reines dans la distance, un peu hiératique, impénétrable, un peu sacré. Et Marie-Antoinette, eh bien, si elle suscite autant de fantasmes, c'est aussi parce qu'elle a contribué à renouveler complètement, profondément l'image de la reine. Par son caractère aussi profondément humain, par sa jeunesse, sa beauté. Par Chantal Chantal Thomas le dit très bien ici, par le fait qu'elle va abandonner le costume royal pour des robes à la mode. Mais ça, finalement, ce n'est pas un sujet aussi frivole. Il y a des conséquences politiques, finalement, de la mode. Philippe Ancel, le grand historien, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Dressed to Rule », s'habiller pour régner. Le costume, c'est la distance. Et la sacralité, elle se nourrit de la distance. En abandonnant le costume royal, eh bien, la reine, elle va enlever la barrière qui la protégeait. Et quel est le ressort de la mode ? C'est l'imitation. Et donc, elle va finalement être noyée dans un flot d'imitation et plus rien ne va distinguer le corps de la reine. Et la révolution, finalement, elle va l'attaquer par là où elle a péché, c'est-à-dire ce fantasme qu'elle a suscité, ce corps qui se dévoilait un petit peu trop.
Est-ce qu'on peut faire, pour autant, de Marie-Antoinette un totem du féminisme ?
En quelque sorte, oui. Alors, il faut savoir, effectivement, que cette société qui l'attaque, eh bien, c'est une société en mutation qui est obsédée aussi par le gouvernement des femmes, en fait. Et on va lui prêter, justement, eh bien, ce pouvoir... Eh bien,
Madame Veto,
Madame Déficit. On a trouvé l'incarnation de la corruption, on a trouvé l'incarnation de cette politique, d'ailleurs, qui la dépasse, puisque les femmes n'ont aucun rôle, et les reines encore moins dans la politique. Mais c'est une forme, effectivement, de féminisme, mais de féminisme sacrifié.
France Inter. Affaires sensibles.
Hélène de Lalex, on s'est beaucoup intéressée à Marie-Antoinette. Que pensez maintenant du cardinal de Rohan ?
Alors, le cardinal de Rohan, en fait, il incarne en fait toutes les contradictions, finalement, de cet ancien régime finissant. À la fois... on dirait aujourd'hui la corruption des élites, en quelque sorte. Un personnage au plus haut de la hiérarchie ecclésiastique qui cumule, alors lui, vraiment toutes les charges, tous les honneurs, tous les privilèges, et qui se complaît dans cette existence mondaine assez scandaleuse. Et puis, cet aveuglement, cette niaiserie dont vous avez parlé, c'est l'aveuglement, finalement, de son propre rang. Ça montre, en fait, des personnages qui sont complètement déconnectés par rapport à la réalité. Et puis, cette manière d'aller rechercher finalement absolument la faveur de Marie-Antoinette. Et elle est là, l'affaire du collier. C'est qu'il a toutes les charges. Il lui manque une chose, la faveur de Marie-Antoinette, parce qu'elle la déteste. Et lui-même aussi la déteste. Mais voilà, c'est aussi cette course effrénée de cette cour oisive sur la faveur qui va effectivement le perdre.
Et Jeanne de Lamothe. Quel personnage aussi, hein ?
Quel personnage, ça a été la star du procès. Il en faut toujours une, évidemment, dans les grands procès publics avec les bonnes feuilles qui se lisent le soir. Eh bien, ce qui est plus intéressant chez Jeanne de Valois, finalement, c'est que cette capacité à mystifier tout le monde, quand même, elle est loin d'être idiote, montre une connaissance très fine, en fait, de tous les ressorts de cette société curiale, de l'ancien régime. Et elle va prendre tous ces ressorts de la monarchie pour les retourner contre elle. La vénalité, cette course à la faveur. Et puis aussi, elle a compris une chose qui est capitale dans cette société de cour, c'est que l'apparence vaut toujours beaucoup plus que la réalité. C'est pour ça que la rumeur, évidemment, se propage. Et donc, elle va, par ce complot, c'est une sorte de scapin un peu au féminin, d'ailleurs, c'est un complot digne des Molières, eh bien, elle va attaquer la monarchie dans son cœur, c'est-à-dire dans sa dimension théâtrale, voire grotesque, et puis aussi sa dépendance totale par rapport à l'opinion.
Et il y a un personnage qui devrait jouer les premiers rôles, c'est le roi. Mais ce roi-là semble incapable de jouer les premiers rôles par indécision. Ça correspond, j'imagine, à une vraie réalité, ça.
Oui, alors il pâtit déjà à l'époque, avant l'affaire du collier, de cette réputation d'indécision, de faiblesse politique. Et là, eh bien, tout va de nouveau se retourner contre lui. Parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, ce mauvais choix qu'il fait de rendre public, évidemment, ce procès, fait qu'au lieu d'aller sauver l'honneur de la reine, eh bien, tout se retourne contre lui. Et cette faiblesse politique, eh bien, va faire que vont ressurgir, mais avec plus de violence, eh bien, toutes ces espèces de pamphlets sur son impuissance. Et puis, on va assister aussi à une sorte de retournement de situation, d'inversion des rôles de genre. Si le roi est impuissant, c'est que la reine, finalement, elle est trop virile. Et donc, ça va donner, finalement, un terrain aussi pour que la reine, eh bien, soit virilisée. Et donc, on lui attribue toutes sortes d'amants, dont notamment le cardinal de Rohan. Et ça fait prendre au roi, eh bien, la figure du mari cocu, qui est l'un des grands ressorts de la littérature libertine à l'époque. Et là, eh bien, on sombre dans le grotesque. Mais le grotesque, ça fait vendre. Il ne faut pas oublier cette spirale commerciale de la calomnie à l'époque. Mmh. Il faut vendre ses feuilles au lecteur. Pour intéresser le lecteur, il faut faire toujours mieux. Et faire mieux, c'est souvent pire.
Oui, ça nous rappelle quelque chose.
C'est complètement actuel. Illusion perdue qui a été adaptée au cinéma avec le succès que l'on doit. C'est parce que, évidemment, il y avait des résonances tellement actuelles de cette presse qu'on dirait à scandale. Et Marie-Antoinette, c'est la première victime sacrificielle de cette presse à scandale.
Alors, pendant le procès, cette phrase du futur président de l'Assemblée constituante, alors qu'il sera guillotiné en 1794, quasiment comme tout le monde, Fréteau de Saint-Just. Grande et heureuse affaire, un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux. Que de fange sur la crosse et sur le sceptre. Quel triomphe pour les idées de liberté, quelle importance pour le Parlement. En gros, la bonne affaire, cette affaire-là, elle est éminemment politique.
Oui, c'est ça qu'on dit, la fange sur le sceptre et la crosse, c'est-à-dire que les deux piliers, les deux fondements de la monarchie française, l'Église et l'État, sont éclaboussés au même moment. Et on lui doit effectivement à ce futur président de la Constituante eh bien, d'avoir une lucidité absolument remarquable aussi à l'époque sur cette récupération politique qu'il va pouvoir faire et comment le Parlement va pouvoir lui s'ériger en défenseur des libertés individuelles contre l'absolutisme royal.
En conclusion, est-ce qu'on peut dire, à la manière de Mirabeau, que cette affaire du collier était le prologue de la Révolution ?
Alors, on l'a dit, prologue oui, parce que tout est en germe. Cette affaire, il est tout à fait juste de dire qu'elle porte un coup irrémédiable à la réputation de la reine, à la réputation de la royauté, à la confiance également de la royauté. Je ne dirais pas, pour apporter de la nuance, que ça provoque, évidemment, la Révolution, ce serait réducteur. Mais ça révèle en fait cette fissuration qui est à l'œuvre comme ça depuis des années, introduite aussi par cette philosophie des Lumières qui va bien contribuer sûr à l'émergence de cette omission, de cette opinion publique. Mais évidemment, la Révolution, elle est mue par des faisceaux beaucoup plus profonds, cette crise multiforme, financière, politique, idéologique, en fait d'une société de l'Ancien Régime complètement à bout de souffle.
Oui, ça sent la fin, c'est bien, c'est crépusculaire. Merci infiniment Hélène Delalex. Je rappelle que vous êtes conservatrice du patrimoine au château de Versailles et de Trianon, autrice de plusieurs livres consacrés au XVIIIe siècle, dont celui-ci que je recommande à nos auditeurs et auditrices, Marie-Antoinette, La légèreté et la constance, livre paru en 2021 chez Perrin. Merci. Au
Merci
revoir.
À vous.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire du collier de la reine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gaspard Guibourget.